J'en veux juste une.
Oui, mais là, je voulais. Bonjour Rémi Lanavet, vous êtes chef de la communauté Saint-Martin depuis 2012. Vous êtes directeur des études au séminaire de la communauté. Vous avez travaillé sur la loi naturelle et sur les aspects politiques de la pensée de Saint Thomas.
Oui.
Et aussi sur la doctrine sociale de l'Église dont vous venez nous parler ce soir, en particulier sur la personne dans la doctrine sociale de l'Église. Merci beaucoup.
Merci Mathieu de ton invitation. Alors, merci beaucoup de votre invitation. Alors on m'a dit que c'était dans un cycle de conférences autour de la personne, c'est ça, que vous étiez passé par les fondements théologiques et exégétiques, c'est ça, hein, de la notion de personne, et que là, c'était le moment de passer à des transpositions, à des applications plus concrètes. Et donc ce qui m'a été demandé, c'est de vous parler du regard que porte la doctrine sociale de l'Église. Cette appellation, j'espère, est connue de tous, donc par là on désigne, je dirais, la part de l'enseignement de l'Église qui est relatif à la société dans tous ses aspects. Donc c'est la société vraiment au sens large, c'est-à-dire que ça inclut évidemment la politique, l'économie. C'est donc la parole de l'Église au sujet de ce qui n'est pas l'Église. Et donc l'idée était de savoir, enfin d'avoir quelques aperçus sur ce regard de la doctrine sociale de l'Église sur la personne humaine dans les applications qui peuvent être faites de ce regard à des réalités, justement, qui sont les réalités dont s'occupe la doctrine sociale de l'Église, des réalités sociales. Alors, compte tenu du fait que la personne est l'alpha et l'oméga de la doctrine sociale de l'Église, eh bien, c'est évidemment impossible de traiter de manière complète le sujet du regard de la DSE sur la personne humaine. Parce qu'effectivement, parler de la personne en lien avec la DSE, eh bien, c'est parler de toute la doctrine sociale de l'Église, qui je dirais, est un arbre qui pousse à partir des racines qui sont celles de la personne. Je vous lis un extrait, je vais en lire pas mal ce soir, j'espère que ce ne sera pas trop fastidieux, mais comme ça permet de connaître cet ouvrage, peut-être que certains l'ont déjà eu entre les mains. Donc c'est un ouvrage qui est un compendium, et un compendium qui donc fait 530 pages, un compendium de la doctrine sociale de l'Église. C'est un ouvrage qui date de 2005, qui est disponible en ligne sur le site du Saint-Siège. Et donc c'est vrai que c'est très pratique parce que c'est vraiment une sorte de... On va y revenir sur le travail que ça a représenté, mais c'est une sorte d'anthologie, si on veut, des textes les plus importants de la doctrine sociale de l'Église. Donc vous savez qu'à l'époque contemporaine, elle s'est formée au gré, comme ça, des textes pontificaux, le premier en date étant de 1891, et puis ensuite il y a eu une succession de textes. Et donc à la fin, comme c'est vrai pour ceux qui ont fait du droit parmi vous, c'est vrai que c'est un peu comme en droit administratif, c'est-à-dire que la jurisprudence prend beaucoup de place, ben là c'est pareil, il y a une succession comme ça de textes. À un moment on s'est dit qu'on allait organiser tout ça, et ça a été donc le compendium. Donc le compendium dit ceci à propos de la centralité de la personne et de sa place dans la doctrine sociale de l'Église. Hein, toute la vie sociale, hein, c'est le numéro 106 et 107 du compendium, hein, toute la vie sociale est l'expression de son unique protagoniste, la personne humaine. L'Église a su à maintes reprises de plusieurs façons se faire l'interprète autorisée de cette conscience, reconnaissant et affirmant le caractère central de la personne humaine en tout domaine et manifestation de la socialité. Et là, peu importe que c'est une citation, que ce soit une citation, hein, la société humaine est donc objet de l'enseignement social de l'Église, hein, du moment que celle-ci ne se trouve ni au dehors ni au-dessus des hommes unis en société, mais existe exclusivement en eux et donc pour eux. Il n'y a pas, quand l'Église parle de la société, elle ne parle pas de la société indépendamment de la personne humaine. La société est toujours une société de personnes humaines. Et cette importante reconnaissance, hein, trouve son expression dans l'affirmation selon laquelle, hein, loin d'être l'objet comme un élément passif de la vie sociale, l'homme en est au contraire et doit en être et demeurer le sujet, le fondement et la fin. Donc si vous voulez, si la personne est l'alpha et l'oméga de la société, par conséquent, la doctrine sociale de l'Église accorde à cette notion de personne considérable, et donc c'est impossible de traiter le sujet, puisque ça reviendrait à traiter de toute la doctrine sociale de l'Église. Il est tout de même possible d'introduire au sujet, et merci beaucoup d'avoir retenu cet angle pour parler de la personne de la doctrine sociale de l'Église, parce que souvent on fonctionne avec deux silos, c'est-à-dire qu'il y a le silo, on va dire, anthropologique, où on va parler de la personne, et puis ensuite il y a un silo, on va dire, plus pratique, de théologie morale, puisque vous savez que la doctrine sociale de l'Église est une partie de la théologie morale, de la doctrine sociale de l'Église. Et c'est vrai que souvent on a un point de vue sur la personne humaine qui est un point de vue fondamental, et c'est très important, mais on oublie de croiser les approches, et on oublie notamment que, dans le compendium, puisque la personne est le principe et la fin de la vie sociale, il y a beaucoup de développement sur la personne. Alors même que, encore une fois, on pourrait se dire, la doctrine sociale va nous parler d'abord, non pas d'un propos anthropologique, mais un propos social, économique, environnemental, politique, etc. Et donc, merci beaucoup d'avoir choisi cet angle, parce que je trouve qu'il y a un vrai apport à enviser la personne du point de vue de la doctrine sociale de l'Église. Alors, je vais procéder en trois temps, parce qu'on ne se refait pas. D'abord, on va voir la personne humaine au prisme de la doctrine sociale de l'Église. Donc là, ce sera vraiment un parcours de la manière qu'a le compendium de présenter les choses. Vous verrez que c'est assez bien ficelé, je trouve, assez, c'était une gageure, je pense, de synthétiser comme ça, et c'est plutôt convaincant. Le deuxième point que je verrai, c'est on verra en quoi la personne humaine est au principe, au fondement des autres principes de la doctrine sociale de l'Église, parce que tous ceux qui sont familiers savent qu'il y a quatre grands principes qui structurent la doctrine sociale de l'Église, et l'idée étant de voir comment est-ce que effectivement, la personne se trouve connectée aux trois autres principes. Quand on parle des principes de la doctrine sociale de l'Église, est-ce que, juste pour faire un test, est-ce que ça évoque quelque chose ça évoque quelque chose à qui, à combien parmi vous? Ça veut dire qu'on ne fera pas double emploi parlant de ça. Et puis le troisième point que je verrai, c'est la personne humaine à l'œuvre. C'est-à-dire, on verra quelques applications, les manières qu'a le magistère de l'Église, c'est vrai que je vais distribuer quelques textes, la manière qu'a le magistère de mobiliser son enseignement sur la personne à propos de certains sujets. Ce sont des échantillons, parce qu'il fallait bien en choisir. Donc d'abord, premier moment, la personne humaine au prisme de la doctrine sociale de l'Église, des considérations de plan. Le compendium comprend trois parties. Vous savez que le catéchisme en comprend quatre, et que retenir l'architecture du catéchisme, c'est toujours très utile pour comprendre l'intelligence de la manière qu'a l'Église de présenter en fait son message. Il y a trois grandes parties dans le compendium, et tout ce qui concerne la personne et les principes se trouve dans la première partie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette première partie comprend quatre chapitres, et il y a un chapitre entier, le troisième, qui est consacré à la personne humaine et à ses droits, puisque évidemment, quand on parle de personne, on aborde le chapitre « Droits de l'homme ». Et puis ce qui est très intéressant, on verra ça dans notre deuxième moment, c'est que c'est seulement au quatrième chapitre qu'il est question des trois autres grands principes de la doctrine sociale de l'Église. Donc il y a un chapitre entier sur un principe, qui est celui de la personne, que le compendium appelle le principe personnaliste, voilà, puisqu'il s'agit de la personne, et ensuite, sans je reste faire un choix d'école dans les différentes philosophies de personnalisme, parce qu'il y a plusieurs personnalismes, là c'est plutôt pour dire il y a un principe qui est celui de la personne, et ensuite c'est un autre chapitre qui traite des autres principes, parce qu'effectivement la personne a ce caractère central. D'abord, moi ce qu'on trouve dans ce chapitre 3, c'est un rappel qui peut être utile, peut-être qui peut servir de synthèse à ce que vous avez pu voir par ailleurs avant. Il y a un rappel sur la personne humaine comme imago Dei, un rappel d'anthropologie biblique et théologique. Et ce qui est très intéressant, c'est que le point qui est retenu pour présenter les choses, c'est cette idée que si la personne humaine, comme tout ce qui est créé, enfin comme toute autre réalité est créée, ben, ça veut dire que qui dit création dit nécessairement relation. Hein. Vous savez que, par exemple, saint Thomas d'Aquin définit essentiellement la création comme étant une relation. Et donc le numéro 109 hein, dit ceci, hein, la ressemblance avec Dieu hein, met en lumière que l'essence et l'existence de l'homme sont de manière constitutive en relation avec Dieu, de la façon la plus profonde qui soit, ce qui permet, dans le numéro d'après, de dire que la relation entre Dieu et l'homme se reflète dans la dimension relationnelle et sociale de la nature humaine. Donc là, on est dans un compagnon de doctrine sociale, donc clairement tous les aspects relationnels sont développés. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que on fait fond sur cette doctrine de la création comme relation, et c'est là-dessus qu'on fonde le fait que la relationnalité de l'homme lui est constitutive, parce que il est, alors comme tout être créé par Dieu, mais en tant qu'image de Dieu, plus encore marqué par cet aspect de la relation. Ensuite, à partir du grand 3 de ce chapitre sur la personne humaine, il y a un examen qui est assez bien fichu. C'est un examen des différents, ce que le compagnon appelle différents profils de la personne humaine. Parce que, effectivement, la personne humaine, on peut effectivement en voir les différentes dimensions ou les différentes facettes. Et c'est ce que fait le texte en voyant, les différents points de vue ou les différents angles sous lesquels on peut, ou plutôt les différentes significations de ce qu'est une personne humaine. Là-dessus, le compendium insiste sur le fait qu'il y a de multiples profils ou plusieurs aspects de la personne humaine, parce qu'un des problèmes qui naît dans le regard porté sur l'homme, c'est le réductionnisme, c'est-à-dire quand on oublie un des aspects de ce qui fait la personne humaine. Et donc, pour mettre en garde contre ce danger d'unilatéralisme, on voit qu'un seul côté des choses, eh bien, le compagnon insiste sur le fait que qui dit personne humaine dit nécessairement plusieurs dimensions. Et ça rejoint un point très important qu'on trouve régulièrement dans la doctrine sociale de l'Église, qui est le critère d'intégralité. C'est peut-être à l'esprit que, par exemple, l'organisme au sein du Saint-Siège qui s'occupe des questions de doctrine sociale de l'Église, c'est alors à l'époque, 2005, c'était un conseil pontifical, mais aujourd'hui c'est un dicastère pour le service du développement humain intégral. Ce critère d'intégralité qui est fondamental parce que, encore une fois, si on ne prend qu'un seul des profils de la personne humaine, par exemple le fait que la personne humaine soit un corps ou par exemple qu'elle soit esprit, eh bien on a un regard qui est faussé parce que incomplet. Là, je voulais vous citer un extrait à propos de ce critère d'intégralité, un extrait de l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, une encyclique de 2009, et qui précisément parlait du développement et du développement intégral, et qui formulait les choses ainsi, hein, la vérité du développement, donc de l'être humain, réside dans son intégralité. S'il n'est pas de tout l'homme et de tout homme, eh bien le développement n'est pas un vrai développement. Le développement de tout l'homme, c'est-à-dire de tous les aspects de la personne humaine. Alors quels sont ces aspects? Justement, quels sont ces différents profils? Alors là, ce n'est pas les profils au sens des profils des avatars, mais c'est les profils, c'est-à-dire les différentes dimensions en fait, de la personne humaine. Le premier aspect qui est retenu, c'est l'unité de la personne. La personne est une, c'est-à-dire que l'être humain est un de corps et d'âme, mais la dualité de ces éléments n'est pas contraire à son unité. Au contraire, les deux concourent à son unité. Ça, c'est un point fondamental, au sens où beaucoup des difficultés viennent du fait qu'on sépare ce que Dieu a uni, et en l'occurrence la personne humaine, eh bien, est un composé d'âme et de corps. Je dis ça parce que souvent, quand on parle de l'homme, on a l'impression que, enfin, comment dirais-je, souvent on dit l'homme est une personne, et on dit l'apport de la vision chrétienne des choses, mais bon, c'est tout à fait vrai, mais pour nous, il n'y a pas que l'homme qui soit une personne. On sait que des personnes, il y en a en Dieu, les anges aussi sont des personnes, et donc le vrai sujet, c'est de savoir eh bien, quelle est l'humanité de cette personne qu'est l'homme. C'est-à-dire que, encore une fois, l'homme a une manière à lui d'être personne, et cette manière, justement, est une manière qui compose esprit et corps, et mais tout ça dans une unité, hein, vous avez peut-être à l'esprit la formule du Concile Vatican II de Gaudium et Spes, l'homme qui est corporé et anima unus, qui est un de corps et d'âme, un par son âme et par son corps. Et donc ça c'est un aspect important, c'est le premier qui est retenu concernant la personne humaine. Il y en a cinq en tout, hein, cinq profils qui sont retenus concernant la personne. Le deuxième, hein, c'est étonnant d'ailleurs que le compendium présente les choses comme ça, mais le deuxième est double. Le deuxième, c'est celui qui concerne l'ouverture de la personne humaine à la transcendance, et par transcendance ici, il faut entendre et la relation à Dieu, et la relation à la totalité de la réalité. Alors, peut-être que les philosophes parmi vous ont à l'esprit, enfin, même pas forcément, enfin, puisque c'est, on est un peu tous passés par là à un moment, ont à l'esprit, vous savez, cette définition cette caractérisation qu'Aristote donne de l'âme, qui, en quelque manière, devient toute chose. L'âme, c'est, en quelque manière, toute chose. Et il désigne par là cette ouverture, en fait, de l'âme au tout, à la totalité. Donc c'est ce dont il est question, à l'ouverture, à la transcendance, et le compendium met ça avec, et je pense que ce serait très intéressant d'approfondir les raisons pour lesquelles on a mis ça ensemble, la personne humaine est non seulement ouverte à la transcendance, mais elle est unique. Elle est unique. Donc elle n'est pas simplement une, mais elle est unique. Elle est unique. Alors, la traduction française dit de cette personne, parce qu'elle est unique, qu'elle est inimitable. Voilà. Mais d'un autre côté, je ne sais pas, l'usage qu'on fait d'inimitable, ce n'est pas vraiment ça. Enfin, sinon, c'est, par exemple, on pourrait dire de vous que vous êtes inimitable. C'est-à-dire que, quand Agathe fait un sketch l'an dernier, un dialogue socratique lors d'une soirée Architella, eh bien, elle est inimitable. Mais en fait, le texte dit, plus littéralement, enfin, en tout cas dans la version italienne, littéralement, c'est qu'elle est irrépétable, en fait. La personne humaine ne peut pas être répétée. C'est-à-dire que ça revient à dire qu'elle est unique, hein, mais ça veut dire qu'on ne peut pas... elle est irréitérable. Quoi. On ne peut pas l'itérer. C'est la seule... Enfin, vous êtes unique. La troisième caractéristique associée à cette ouverture à l'ascendance et à cette unicité, il y a bien sûr la dignité de la personne. Qui va de pair, c'est tellement évident que, effectivement, enfin, je veux dire, ça revient tellement souvent, cette idée que à la personne est associée une dignité, en tout cas, c'est ici que c'est placé par le compendium. Le troisième profil de la personne, c'est sa liberté, bien sûr. On a peut-être à l'esprit que, par exemple, un saint Thomas d'Aquin se demande un peu quel est... d'où vient ce concept de personne, qu'est-ce qu'il exprime, bien lui, vraiment, ce qu'il retient comme caractéristique, c'est le fait que l'homme a une manière unique. J'ai du monde d'être unique, parce qu'on pourrait dire, cette chaise est unique, c'est vrai qu'en un sens elle est unique, mais elle n'est pas unique comme nous sommes uniques. Parce que nous, notre manière à nous d'être unique, c'est pas simplement que par notre corps, mais c'est aussi par notre liberté. La liberté, c'est la capacité à poser des actes qui sont vraiment les seuls à être posés. Donc la personne humaine est libre, bien sûr, hein, ça compte dans un compendium de doctrine sociale de l'Église. La quatrième caractéristique qui est retenue, c'est la légalité, puisque si toutes les personnes sont des personnes, eh bien, en tant que personnes, elles ont une dignité égale. Voilà. Ce principe d'égalité, là aussi, a un potentiel social énorme. bien sûr. Et puis enfin, le dernier profil de la personne qui est retenue, hein, c'est qu'une personne humaine est caractérisée par son ouverture au lien social. Ce qu'on va désigner comme étant sa socialité. La personne humaine est constitutivement sociale, et cette socialité de la personne ne lui est pas extérieure, elle ne lui est pas rajoutée, elle lui est vraiment intrinsèque. Alors là, pour ceux qui sont amateurs de philosophie politique parmi vous, c'est vrai qu'il y a une note assez intéressante, une note au numéro 149 du compendium, qui explique que parler de la socialité naturelle de la personne humaine, ça implique d'exclure, bien sûr, des visions, des théories du contrat social. Parce que si on prend le contrat social au sens strict, le contrat social, c'est la théorie d'après laquelle, effectivement, la société, pas simplement la société politique, mais le lien social est contractuel. C'est-à-dire qu'il naît de la liberté. Et ce qui veut dire que l'homme est homme, abstraction faite de ce lien contracté. Or, affirmer la socialité de la personne humaine, eh bien, c'est dire qu'il appartient à la nature de l'être humain et pas au statut d'une institution, d'une fondation qui vient après coup. Je cite le numéro 149, hein. La personne est de par sa constitution un être social, car ainsi l'a voulu Dieu qui l'a créé. Hein. Il faut donc souligner que la vie communautaire est une caractéristique naturelle, et pas encore une fois artificielle, qui distingue l'homme du reste des créatures terrestres. Donc pour dire que, effectivement, quand on parle de la socialité de la personne, on parle évidemment de toute autre chose que du lien qui peut unir les abeilles dans la ruche. C'est-à-dire que c'est autre chose. C'est pas simplement, je dirais, un groupe ou une sorte d'instinct de groupe. Non, c'est une vraie socialité. Voilà. Or, et ce qui est très intéressant, c'est que cette socialité humaine, le compendium précise d'emblée, hein, on va retrouver ça avec le principe de subsidiarité, qu'elle ne s'exprime pas simplement dans la société politique, mais qu'elle s'exprime dans toutes les formes, en fait, de vie sociale. Hein. Je cite le compendium, afin de favoriser la participation du plus grand nombre à la vie sociale, il faut encourager la création d'associations et d'institutions à but économique, culturel, sociaux, sportif, récréatif, professionnel, politique. Bref, c'est tout ce qu'on appelle la socialisation, qui est l'expression de la nature humaine. Alors, c'est une expression de la nature humaine qui passe par aussi des choix libres, mais qui s'enracine effectivement dans une nature qui est sociale. Après donc cette présentation des différents profils de la personne humaine, il y a bien sûr tout un ensemble de considérations sur les droits de l'homme, bien sûr, quelle est la vision qu'a la doctrine sociale de l'Église des droits de l'homme, qui sont des droits de la personne humaine. Je passe là-dessus parce que ce n'est pas directement le sujet, mais vous savez que c'est un point important pour savoir effectivement si l'Église parle de la même chose quand elle parle des droits de l'homme que effectivement ce que nos sociétés peuvent entendre par là. Et une fois qu'on a survolé, hein, vous voyez, c'était très rapide, hein, ce que le compendium fait à propos de la personne humaine, l'idée, c'est de savoir comment est-ce que le compendium articule ce qui a été dit de la personne avec les trois autres grands principes de la doctrine sociale de l'Église. C'est notre point 2, hein, la personne humaine qui est au fondement des autres principes. Alors ces autres principes, je le dis déjà, hein, le premier principe qui vient après la suite de la personne, c'est celui du bien commun. Hein, celui du bien commun, on va y revenir. Le troisième, c'est le principe de subsidiarité. Est-ce que là aussi, hein, juste un test, pour qui est-ce que le mot de subsidiarité est un mot qui évoque un ensemble nul, enfin, ou évoque une case blanche, ou est-ce que... Ok, super. Et puis le dernier principe, c'est le principe de solidarité. Voilà. Et donc c'est ça qui structure. Je dis au passage, hein, c'est vrai que ce travail en 2005 a été un travail considérable, parce que, encore une fois, la doctrine sociale de l'Église s'est élaborée au gré, comme ça, des interventions des textes du magistère. Hein. Certains parmi vous connaissent la première grande encyclique de la doctrine sociale de l'Église, qui est donc celle du 15 mai 1891, donc Rerum Novarum. J'en parle d'autant plus que, effectivement, le pape Léon XIV, comment dirais-je, se conçoit très clairement, très explicitement, depuis le début de son pontificat, comme un écho à ce pontificat, en tout cas cette innovation en laquelle a consisté cette parole de l'Église qui était qui était inédite et qui a donné qui a été créatrice de toute une tradition. Alors, vous savez que les papes ensuite ont célébré l'anniversaire de cette encyclique par plusieurs autres textes qui se sont situés. Donc le dernier en date étant un texte, on va y revenir, important du pape Jean-Paul II, donc, qui célébrait les 100 ans de Rerum Novarum, et qui, pour un pape polonais, mais je crois que vous connaissez tout ça par cœur, revenant de Pologne, c'est sûr que cette encyclique de 1991, c'est sûr qu'elle prend un relief tout particulier, compte tenu de ce qui se passait à l'époque, mais même si pour vous c'est déjà du néolithique, c'est vrai que ça a quand même marqué tous les dinosaures qui effectivement étaient moins âgés que vous, en tout cas qui ont vécu ça ou qui en ont eu des échos, puisque effectivement 91, ça a été une parole de l'Église qui, il y avait une coïncidence entre l'anniversaire de cette parole prophétique de Léon XIII et puis ce qui se passait en Europe à ce moment-là. Et donc, je voulais dire que les encycliques se sont succédées d'une manière assez empirique. Et il y a un moment, en 2005, on s'est dit, c'est pas simplement qu'on va collecter, c'est pas simplement qu'on va faire un recueil, c'est qu'on va organiser. On va organiser quelque chose qui, jusque-là, s'était constitué au gré des interventions. Et donc, c'est vrai que ce compendium a une valeur doctrinale assez intéressante parce qu'encore une fois, il a systématisé ou il a organisé conceptuellement ce qui, jusque-là, s'était fait de manière un peu au coup par coup. Voilà. Alors, à propos de ces principes de la doctrine sociale de l'Église, il peut arriver qu'on les présente de manière un peu mécanique, c'est-à-dire en les alignant les uns après les autres, un peu comme en colonne. Donc il y a personne, bien commun, subsidiarité, et puis solidarité. Et sans voir que, en réalité, c'est pas comme ça que ça se présente, puisque le principe de la personne, c'est pas un principe à côté des autres. C'est vraiment le principe qui fonde les autres, et puisque les trois autres sont dérivés de celui de la personne. Je vous lis le tout début du numéro 160 du compendium à propos de ces principes autres que ceux de la personne. Les principes permanents de la doctrine sociale de l'Église constituent les véritables fondements de l'enseignement social catholique, à savoir le principe de la dignité de la personne humaine, déjà traité au chapitre précédent, sur lequel reposent tous les autres principes et contenus de la doctrine sociale, ceux du bien commun, de la subsidiarité, de la solidarité. Voilà. Donc, ce n'est pas un rapport d'alignement, c'est vraiment un rapport où il y a un ordre, c'est-à-dire un principe, une série qui s'origine dans ce principe. Ces principes sont donc connectés entre eux, et là aussi s'applique un principe d'intégralité, c'est-à-dire qu'il peut arriver pas mal de déformations en fait de cet enseignement si jamais on privilégie un au détriment d'un autre. Alors, je vous le fais un peu de manière caricaturale, mais c'est vrai que parmi nous, parmi vous, certains vont être très sensibles au principe de personne et donc à la liberté associés à cette personne, tandis que d'autres vont être beaucoup plus sensibles au principe de bien commun, parce qu'ils vont considérer comme étant, suspect d'individualisme, une insistance trop grande sur la liberté de la personne. Or, vous savez que ces questions de liberté de la personne et puis d'insistance sur ce qu'il y a de commun, évidemment que ça a un relief historique énorme, surtout au moment où Léon XIII écrit Rerum Novarum, parce que derrière, évidemment, il y a la question du libéralisme et du communisme. Et donc, le but de la doctrine sociale de l'Église n'est pas d'être un isme de plus, donc c'est pas ça. Mais c'est donc de porter un regard sur la personne humaine et sur la société qui inclut l'ensemble des dimensions et qui cherche par conséquent entre tous ces principes une composition. Parce qu'encore une fois, si on en choisit un au détriment des autres, par exemple si on choisit la solidarité au détriment par exemple de la subsidiarité, bah, ça peut donner des résultats qui sont, on va dire, tendanciellement assez centralisateurs, planificateurs, etc. Alors qu'il faut tenir un point d'équilibre entre tous ces principes. Et c'est pour ça que le compendium insiste sur le fait que, je cite, hein, c'est le numéro 162, hein, « les principes de la doctrine sociale doivent être appréciés dans leur caractère unitaire, dans leur connexion et leur articulation. » Donc ça pour dire que c'est vrai que, d'où l'importance de ne pas fonctionner avec un silo sur la personne et puis un autre silo avec tout le reste, parce que, en fait, si on ne voit que la personne, bah, on manque effectivement tout un aspect, tout un pantier, et même on déséquilibre l'ensemble, parce que bah, le risque, c'est d'être dans une forme d'individualisme. Or, la personne n'est pas... Il y a une grande différence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le principe personniste n'est pas un individualisme. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut le contrebalancer et ne pas l'isoler. De même que, effectivement, bah, un bien commun sans personne, eh bien, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Je peux vous renvoyer, effectivement, à mes confrères de la Commission Saint-Martin qui sont à Cuba et qui, effectivement, expérimentent quotidiennement que le commun sans la personne, bah, c'est un peu difficile à vivre. Donc, à propos du principe de bien commun, là, je trouve ça très intéressant parce que... Alors, je ne sais pas aussi quelle est votre expérience, parce qu'on a tous des expériences du bien commun, mais parfois, notre expérience du bien commun ou même notre perception de la notion fait qu'on perçoit tout de suite une forme de tension entre personne et bien commun. Parce que souvent, on perçoit le bien commun comme ce au profit de quoi il faut se sacrifier. Et donc, la personne est toujours tendanciellement pensée comme pouvant être menacée par une insistance sur le bien commun. Voilà. Or, ce qui est très intéressant, c'est que, en présentant le principe du bien commun, puisque, encore une fois, hein, ces principes sont connexes et articulés, hein, en présentant donc le principe du bien commun, le compendium le présente à partir des différents profils de la personne. Je cite le numéro 164, hein, « De la dignité, de l'unité et de l'égalité de toutes les personnes découle avant tout le principe du bien commun, auquel tout aspect de la vie sociale doit se référer pour trouver une plénitude de sens. » Alors comment se fait-il que ce principe de bien commun dérive de la personne dans sa dignité, dans son unité, dans son égalité? Eh bien pour la raison suivante, hein, c'est le numéro 165, hein, une société qui à tous les niveaux désire véritablement demeurer au service de l'être humain, hein, est celle qui se fixe le bien commun pour objectif prioritaire, dans la mesure où c'est un bien appartenant à tous les hommes et à tout l'homme. C'est sûr que si un développement intégral, c'est un développement de tout l'homme et de tout homme, bah, si la société ne vise pas le bien commun, un bien commun, alors c'est pas, on n'épuise pas le sens du bien commun en disant ça, mais il faut qu'un bien commun soit commun, c'est-à-dire qu'il soit commun aux membres de cette société. Et donc s'il n'est pas commun, eh bien c'est la personne même qui est lésée, parce que... Nous tous, nous avons vraiment tout intérêt à ce que l'État vise le bien commun, parce que bah, on en sera bénéficiaire. C'est-à-dire que s'il ne vise pas le bien commun, c'est-à-dire s'il vise le bien, un bien partiel, ou un bien, pire encore, un bien, s'il détourne en fait la visée du bien commun pour une captation de bien au profit seulement de quelques-uns, bah, nous sommes lésés. Nous sommes lésés. Donc, or, et ça c'est un mépris de la dignité et de l'égalité des personnes. Parce qu'il faut que tous les membres puissent bénéficier de ce bien commun. Mais l'autre versant, hein, c'est aussi celui-ci, on va y revenir avec la participation, hein. La personne ne peut pas trouver sa propre réalisation uniquement en elle-même. Uniquement en elle-même, c'est-à-dire indépendamment de son être avec et pour les autres. C'est sûr que envisager l'accomplissement de la personne indépendamment de sa référence au bien commun, C'est bizarre, parce que, en fait, encore une fois, la socialité appartient intrinsèquement, constitutivement à la personne, et ensuite, la personne se déploie aussi dans sa contribution au bien commun, et pas simplement dans la recherche de son bien propre, de son bien personnel. Voilà. Cette vérité lui impose non pas une simple vie en commun aux différents niveaux de la vie sociale et relationnelle, mais la recherche centrale du bien sous forme pratique et pas seulement idéal, c'est-à-dire du sens et de la vérité qui se trouve dans les formes de vie sociale existantes. Donc, le principe du bien commun s'enracine dans ces caractéristiques de la personne humaine que sont effectivement la dignité, l'unité et l'égalité de toutes les personnes. Le corollaire du principe de bien commun, c'est peut-être un terme, là aussi c'est un terme technique hein, de la doctrine sociale de l'Église, le corollaire du principe du bien commun, c'est un autre principe qu'on appelle le principe de la destination universelle des biens. Est-ce que, alors les juristes connaissent la DUP, c'est-à-dire la déclaration d'utilité publique, mais là c'est la DUB, c'est-à-dire la destination universelle des biens. C'est un terme un peu technique pour dire que, est-ce que c'est un terme qui vous est familier peut-être? Oui, vous êtes génial, bon, on a... donc j'enfonce des portes ouvertes. Mais juste pour ceux pour qui il ne serait pas familier, eh bien, en fait, on désigne par là le fait que les biens n'ont pas une, une vocation à être utilisés ou à bénéficier seulement à quelques-uns, mais à tous. Donc il y a une destination universelle des différents biens, qu'il s'agisse de biens physiques ou de biens moraux. Donc ça veut dire qu'un bien n'a jamais pour seul sens d'être approprié par un seul. Il garde toujours cette orientation vers l'ensemble. Voilà. Et ça, c'est un corollaire du principe du bien commun. Un corollaire du principe du bien commun, en sachant qu'un bien commun, c'est un bien qui a cette capacité de profiter à tous et non pas seulement à quelques-uns. Alors, la destination universelle des biens, vous le savez, hein, c'est la porte d'entrée, du point de vue de la doctrine sociale de l'Église, pour examiner un sujet ultra chaud, et qu'il était dès les débuts de la doctrine sociale de l'Église, et qu'il est encore joué, qui est ce sujet de la propriété privée. Parce qu'on pourrait se dire, si les biens sont destinés à tous, alors le mieux, c'est qu'ils appartiennent à tous, c'est-à-dire à personne. Et là, la réponse de la doctrine sociale de l'Église est la suivante, d'où l'intérêt de bien avoir à l'esprit que tout est connexe, c'est que là, elle ramène au principe de personne, c'est que il appartient à la dignité de la personne, non seulement de travailler, mais par son travail, de s'approprier un certain nombre de biens. C'est la raison pour laquelle l'Église considère qu'effectivement la propriété privée est le droit naturel. Alors c'est un droit naturel qui n'est pas originaire, parce que ce qui est originaire, c'est le fait que les biens soient pour tous. Néanmoins, la meilleure manière, du point de vue de la doctrine sociale de l'Église, pour que les biens bénéficient à tous, c'est qu'ils soient appropriés par chacun, compte tenu du fait que les bénéficiaires de ces biens et les créateurs de ces biens sont des personnes. Et qu'il appartient à la dignité de la personne d'avoir cette capacité d'être propriétaire. D'être propriétaire. Je lis le début du numéro 176. Par le travail, hein, l'homme, utilisant son intelligence, parvient à dominer la terre et à en faire sa digne demeure. Donc c'est la référence à la Genèse. Il s'approprie ainsi une partie de la terre, celle qui s'est acquise par son travail. C'est là l'origine de la propriété individuelle, qui, encore une fois, n'annule pas la destination universelle des biens. La propriété privée et les autres formes de possession privée des biens assurent à chacun une zone indispensable d'autonomie personnelle. C'est là qu'intervient la personne. D'autonomie personnelle et familiale. Il faut les regarder comme un prolongement de la liberté humaine. Étant donné qu'il appartient à la personne d'être libre, bien, la personne a cette capacité, encore une fois, d'exprimer sa liberté en s'appropriant des biens. Enfin, en stimulant l'exercice de la responsabilité, il constitue l'une des conditions des libertés civiles. La propriété privée est un élément essentiel d'une politique économique authentiquement sociale et démocratique, et la garantie d'un ordre social juste. Alors évidemment, je ne vous cite là, ici, puisqu'on parle de ça, je ne vous cite que ce qui concerne la propriété privée. Bien sûr, il faudrait citer tout ce qui concerne la régulation de cette propriété privée. Il y a beaucoup de développement là-dessus. Mais là, je parle de la propriété privée uniquement pour faire voir en quoi est-ce que ce principe du bien commun qui a pour corollaire cette destination universelle des biens, eh bien se réfère aussi au principe de la personne. Le troisième grand principe de la doctrine sociale de l'Église, et c'est vrai que je pense que c'est le plus typique, au sens comme c'est un nom, connu des initiés seulement, et vraiment qu'on emploie une fois par an, ou une fois tous les deux ans, le mot de subsidiarité, c'est un principe qui est un peu un marqueur. Alors vous savez qu'il a, pour les juristes parmi vous, vous savez qu'il a trouvé un terrain d'application en droit de l'Union européenne, notamment sous l'inspiration de chrétiens qui ont été à l'origine de cet édifice juridique. Donc il a une existence, extra doctrine sociale de l'Église, étant donné qu'il est dans les traités européens. Néanmoins, c'est la présentation d'après la doctrine sociale de l'Église, et il dérive lui aussi de la primauté de la personne. Alors, pour faire vite, le principe de solidarité, c'est deux choses. Il y a un versant positif et un versant négatif. Le versant positif, c'est que le rôle d'une autorité d'un rang supérieur est d'aider, c'est le sens du mot subsidium, c'est d'aider une autorité de rang inférieur. Donc, dès qu'une autorité supérieure n'aide pas une autorité d'ordre inférieur, elle perd, le principe de solidarité n'est pas respecté, et elle perd de son sens et de sa légitimité. Et puis le versant négatif, c'est qu'une autorité de rang supérieur ne doit pas intervenir là où l'autorité supérieure peut faire le travail. Donc c'est un principe à la fois qui donne son sens à l'autorité supérieure, et qui en même temps la limite dans son déploiement. Puisque tout déploiement d'une autorité supérieure qui empêche une autorité de rang inférieur de se déployer est illégitime. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ce principe de subsidiarité, alors, pour le faire vite, le principe de subsidiarité, il est là où il est le plus visible, c'est dans les structures de type fédéral. C'est vrai qu'une structure de type fédéral, c'est très frappant. Alors nous, en France, on est des analphabètes de ça, donc ça nous est très étranger. Vraiment, on ne raisonne absolument pas comme ça. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, c'est totalement spontané, de raisonner de manière subsidiaire, au sens, et ça se voit le mieux, je trouve, dans les structures de type fédéral, où le niveau du dessus fait tout ce qu'il peut faire, et le niveau du dessus n'intervient que quand vraiment le niveau du dessous ne peut pas le faire. Alors qu'en France, c'est exactement l'inverse, souvent ça cascade d'en haut, et puis surtout, l'État sait bien mieux faire que toutes les autorités du dessous. Comme tout le monde le sait. Je cite, à propos de la solidarité, il est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n'est en prenant soin de la famille, des groupes, des associations, des réalités territoriales locales, bref, de toutes les expressions associatives de type économique, social, culturel, sportif, récréatif, professionnel, politique, qui sont en dessous de l'autorité étatique. Et donc ce que je tiens ici, c'est qu'on ne peut pas promouvoir la dignité de la personne si on ne promeut pas toute cette socialité infra-étatique ou infra-fédérale. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que de même que la destination universelle des biens est un corollaire du principe de bien commun, le corollaire du principe de subsidiarité, c'est une sorte de sous-principe qui est le principe de participation, qui veut que effectivement, la personne humaine pouvant contribuer au bien commun, il faut favoriser cette participation. Et donc c'est là que se situe l'enseignement de l'Église sur la démocratie, comme une expression de la capacité participative de la personne humaine. À propos du principe de solidarité, je vais passer assez vite, parce que l'heure tourne, ce que je retiens simplement, c'est que dans la présentation qui en est faite, il y a aussi une dérivation à partir de la personne humaine, je cite, la solidarité confère un relief particulier à la socialité intrinsèque de la personne. La solidarité, c'est deux choses dans la doctrine sociale de l'Église. C'est à la fois le principe de lequel plus on est solidaire et mieux c'est, parce que plus ça exprime, encore une fois, notre interdépendance, et aussi c'est une vertu au sens où ça consiste à, je cite, c'est la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun. C'est d'exprimer la solidarité que toute la personne humaine a avec le bien commun. Voilà. Alors, une fois que on a vu hein, que la personne forme une constellation en fait avec les quatre autres, avec les trois autres principes de la doctrine sociale de l'Église, hein, donc bien commun, subsidiarité et solidarité. Hein, j'en viens maintenant à mon troisième moment qui essaye de voir la personne humaine à l'œuvre, c'est-à-dire comment est-ce que dans certains domaines, eh bien, se traduit cet enseignement de la doctrine sociale de l'Église sur la personne. Je retiens quatre domaines. Le premier domaine que je retiens, ça va être assez rapide, mais parce que c'est un domaine qui a été clé dès le début et qu'il est évidemment aujourd'hui, c'est le rapport capital-travail. C'est-à-dire qu'on a à l'esprit hein, que, effectivement, Rerum Novarum 1891, effectivement, la parole de l'Église devait se prononcer sur le juste rapport entre les deux. Or, comme la vision qu'a la doctrine sociale de l'Église du travail, c'est que le travail est une expression de la personne humaine, c'est-à-dire que le travail est envisagé comme étant un acte de la personne, raison pour laquelle c'est vrai que ça paraîtrait bizarre de dire par exemple qu'un animal travaille, qu'une machine travaille, parce qu'au sens strict, le travail est un acte personnel, une vocation. Eh bien, étant donné que c'est la personne qui travaille, eh bien clairement, hein, le capital est un instrument au service de ce travail, ce qui veut dire que la vision qu'a la doctrine sociale de l'Église qui n'antagonise pas capital et travail, je ne vous fais pas un dessin sur ce que ça peut représenter socialement, un antagonisme, une pensée de l'antagonisme entre capital et travail. Et donc ça n'antagonise pas capital et travail, mais en même temps ça les hiérarchise. Parce que si la personne est principe et fin, comme c'est la personne qui est à l'origine et du travail et du capital, et que le capital n'existerait pas sans le travail qui le précède, eh bien clairement le capital est subordonné au travail. Parce qu'encore une fois, la personne est centre et fin. Donc, sur une question aussi, alors, je reconnais, hein, ça ne résout pas concrètement les choses, mais ce que je dis, c'est qu'au moins du point de vue des outils conceptuels, l'Église avait une parole à prononcer sur ce sujet absolument central de la philosophie sociale depuis le 19e siècle, et la manière qu'elle a eu de le faire, c'est en le faisant à partir d'une anthropologie de la personne. Parce que c'est assez compliqué, si on ne relie pas le travail à la personne, ben c'est assez compliqué d'échapper à la dialectique capital-travail. Voilà. Le deuxième point que je retiens, toujours sur ces sujets économiques, alors c'est sûr que c'est un peu ceux que j'ai plus travaillé, c'est pour ça que c'est vraiment un échantillonnage, donc c'est très sélectif, c'est tout ce que le compendium dit s'agissant de la liberté d'entreprendre et du marché. Je le dis parce que souvent, je pense à ce livre-là de Jacques-Benoît Rauscher, là, qui est sorti il y a quelques années, là, sur la doctrine sociale de l'Église est-elle anticapitaliste. C'est vrai que je suis toujours un peu surpris de voir que le mot marché véhicule une sorte de. Enfin, que la connotation associée à ce mot est beaucoup plus forte que sa définition, finalement. Et donc, de ce point de vue-là, pour la doctrine sociale de l'Église, évidemment que si l'homme est une personne, alors le corollaire de ça, c'est la liberté d'entreprendre. C'est la liberté d'entreprendre. Je cite le compendium, et c'est notamment Jean-Paul II dans « Centesimus Annus » en 91 qui a insisté là-dessus, parce que, encore une fois, le contexte est celui de la transition des démocraties populaires, après le communisme, hein, la doctrine sociale de l'Église considère la liberté de la personne dans le domaine économique comme une valeur fondamentale et comme un droit inaliénable à promouvoir et à protéger. Chacun a le droit d'initiative économique. Chacun usera légitimement de ses talents pour contribuer à une abondance profitable à tous et pour recueillir les justes fruits de ses efforts. Et le corollaire de ça, hein, c'est la vision du marché libre. Alors bien sûr, hein, qui ne veut pas du tout dire que c'est un marché désencastré et un marché qui est un en-soi. Le marché libre, hein, le marché libre est une institution socialement importante en raison de sa capacité de garantir des résultats suffisants dans la production de biens et services. Hein, voilà. Les mécanismes du marché placent au centre la volonté et les préférences de la personne, qui, dans un contrat, rencontre celle d'une autre personne. Voilà. Le marché, c'est vrai qu'avant d'être une sorte d'entité diabolique, c'est un lieu où des personnes se rencontrent. Et cette dynamique-là est positive, mais bien sûr, elle demande d'être référée à, tiens, au principe de bien commun.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis, ce que je retiens aussi, un tout autre domaine, hein, ce sont les textes que je vous ai mis, vous pourrez effectivement, vous les aurez aussi pour la suite. Ce que j'ai retenu de ces textes, c'est deux domaines récents hein, d'application de ce principe de la personne. Ces premiers textes, c'est une très belle lettre hein, de 2020 sur la fin de vie. Sur la fin de vie, où effectivement, là, le regard de... Alors, la bioéthique hein, entre hein, dans la doctrine sociale de l'Église, hein, même si, bon, c'est aussi de la morale personnelle et ça, mais compte tenu du fait qu'il y a cette dimension sociale et puis cette régulation aussi par la loi, ça rentre dans la doctrine sociale de l'Église. Et là, ce que je trouve beau, hein, c'est la manière qu'a le principe de la personne eh bien, d'éclairer l'attitude des soignants. Hein. C'est le texte le premier. Hein. Il est plus que jamais nécessaire de faire un effort, hein, même spirituel, pour laisser place à une relation fondée sur la reconnaissance de la fragilité, de la vulnérabilité de la personne malade. La faiblesse, en effet, nous rappelle notre dépendance à l'égard de Dieu. Il nous invite à répondre avec le respect du haut prochain. De là naît la responsabilité morale liée à la conscience de toute personne qui prend soin du malade, médecin, infirmier, membre de la famille, bénévole, pasteur, d'être en présence d'un bien fondamental et inaliénable, la personne humaine. Un bien fondamental et inaliénable qui impose de ne pas pouvoir dépasser la limite dans laquelle le respect de soi et des autres se situe, c'est-à-dire l'accueil, la protection, la promotion de la vie humaine jusqu'à la survenue naturelle de la mort. Il s'agit en ce sens d'avoir un regard contemplatif, qui sait saisir dans sa propre existence et celle des autres un prodige unique, voilà. C'est le principe d'unicité de la personne, et irremplaçable, inimitable, irrépétable, reçu et accueilli comme un don. C'est le regard de celui qui ne prétend pas prendre possession de la réalité de la vie. C'est sûr qu'une personne est susceptible de s'approprier des choses, mais elle est elle-même inappropriable. Enfin, c'est pas un bien, enfin la personne est sujet de propriété, mais elle ne peut pas être objet de propriété. Hein. Ça, c'est toute la condamnation de l'esclavage. Donc, c'est le regard de celui qui ne prétend pas prendre possession de la réalité de la vie, mais c'est l'accueillir telle qu'elle est, avec ses efforts et ses souffrances, en essayant de reconnaître dans la maladie un sens à partir duquel il se laisse interroger et guider. Assurément, la médecine doit accepter la limite de la mort comme faisant partie de la condition humaine. Il arrive un moment où il suffit de reconnaître l'impossibilité d'intervenir avec des thérapies spécifiques sur une maladie qui se présente comme mortelle à bref délai. C'est un fait dramatique qui doit être communiqué au malade avec une grande humanité, aussi avec une ouverture confiante à la perspective surnaturelle, conscient de l'angoisse que la mort génère, surtout dans une culture qui la cache. En effet, on ne peut pas considérer la vie physique comme une chose à préserver à tout prix, ce qui est impossible. Enfin, c'est ni possible ni souhaitable de conserver la vie physique comme une chose à préserver à tout prix, mais comme une chose à vivre en parvenant à une libre acceptation du sens de l'existence corporelle. Hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est la justification qui est donnée de cela. Hein. Donc, extrait de Veritatis Plador, hein. Ce n'est qu'en référence à la personne que dans sa totalité unifiée, voilà, principe d'unité de la personne, c'est-à-dire une âme qui s'exprime dans un corps et un corps animé par un esprit mortel, que l'on peut déchiffrer le sens spécifiquement humain du corps. Donc ça veut dire que, concernant cette fin de vie, le regard porté sur la personne malade, c'est un regard porté sur une personne humaine. C'est, en fait, ce sont des personnes qui sont en relation avec d'autres personnes. Et puis, l'autre exemple que je vous ai mis, hein, c'est l'exemple d'un document que vous avez peut-être vu passer de janvier dernier sur l'intelligence artificielle, Antiqua et Nova. Je ne vous ferai pas l'injure de traduire. Et donc, qui est donc un document sur les relations entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Et là aussi, vous verrez, c'est à partir de ce critère de la personne que on peut apprécier si telle évolution est un progrès ou pas. Hein. Je cite juste le début du numéro 39. Hein. Pour relever les défis que pose l'IA, hein, il convient d'attirer l'attention sur l'importance de la responsabilité morale fondée sur la dignité et la vocation de la personne. Ce principe est également valable pour les questions liées à l'IA. Ici, la dimension éthique est primordiale, puisque ce sont les personnes qui conçoivent les systèmes et qui déterminent à quoi ils servent. Parce qu'à l'origine de ça, il y a des personnes. Entre une machine et un être humain, seul ce dernier est véritablement un agent moral. Vous savez, c'est tout le sujet de, eh bien, des systèmes autonomes. Et on se demande si on peut leur attribuer une responsabilité, comment est-ce qu'on les paramètre vous savez, les voitures là sans conducteur, etc., ou tous les engins sans conducteur, est-ce qu'on peut comme ça déléguer une responsabilité? C'est des questions juridiques redoutables. Or, c'est sûr que seul l'être humain, en tant que personne, est un agent moral, c'est-à-dire un sujet moralement responsable qui exerce sa liberté dans ses décisions et en assume les conséquences, etc. Et puis, en conclusion, je voulais d'avoir été un peu au pas de course. En conclusion, je voulais juste rappeler, là aussi, pour que vous ayez connaissance de ce texte, c'est un texte de 2024 du Dicastère pour la doctrine de la foi qui porte précisément sur la dignité de la personne humaine. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce document et qui le décline dans différents domaines actuels. Et je retiens simplement le début de ce texte, qui rappelle effectivement la centralité de la personne dans l'enseignement moral de l'Église, une infinie dignité, c'est une expression très forte qu'avait utilisé Jean-Paul II, parce que c'est vrai que si l'homme est une personne à l'image de Dieu, en un sens, alors même que c'est un être fini, il participe de cette dignité infinie, une infinie dignité inaliénablement fondée dans son être même, appartient à chaque personne humaine en toutes circonstances et dans quelque état ou situation qu'elle se trouve. Ce principe, tellement reconnaissable par la seule raison, fonde la primauté de la personne humaine. Et la protection de ses droits, c'est le premier principe personnaliste. L'Église, à la lumière de la révélation, réaffirme et confirme sans réserve cette dignité ontologique de la personne humaine, créée à l'image et à l'ensemble de Dieu, rachetée dans le Christ Jésus. C'est de cette vérité qu'elle tire les raisons de son engagement. De cette vérité, elle tire les raisons de son engagement vers les plus faibles et les moins dotés de pouvoir, mais qui sont eux aussi des personnes, à titre égal, en insistant toujours sur le primat de la personne humaine et la défense de sa dignité en toutes circonstances. Désolé d'avoir été un peu rapide. Et je crois qu'il y a un temps de questions qui est prévu. Je veux dire, il faut faire des choix, donc je ne sais pas si les choix faits étaient les bons, mais parce qu'il y aurait énormément de choses à dire au sein de la doctrine sociale de l'Église sur... cette primauté du principe de la personne.
Oui. Moi j'ai une question sur la valeur doctrinale de la doctrine sociale de l'Église. Parce que vous avez dit que c'était d'abord une compilation de textes qui étaient historiquement très situés, dont on avait ensuite par la suite essayé de dégager des principes. Dans quelle mesure, c'est une question là, mais dans quelle mesure ça oblige non seulement dans les principes, mais aussi dans les applications concrètes qu'on utilise.
Merci pour cette excellente question. C'est vrai que de ce point de vue-là, la doctrine sur l'Église est un excellent exemple. En tout cas, un excellent terrain de discernement de ce qui, de l'enseignement de l'Église, est immuable, est à valeur pérenne, et puis ce qui, en revanche, est transitoire. Et donc ça, c'est vrai que... Alors, au début du compendium, il y a tout un ensemble de propos, justement, de type épistémologique, sur la doctrine sociale de l'Église. Et c'est vrai que c'est un peu comme toujours, c'est-à-dire que c'est l'Église elle-même qui, après coup, mais du reste, ça vaut aussi pour les... je dirais, pour le développement dogmatique. C'est-à-dire que c'est l'Église, après coup, qui fait le tri entre ce qui est effectivement permanent et puis ce qui relève d'applications assez concrètes. Et c'est la raison pour laquelle, c'est un reproche qu'on fait souvent à la doctrine sociale, c'est d'être un peu stratosphérique. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on lit ça, on se dit, mais de quoi ça parle? C'est-à-dire que, parce qu'on se dit, la société que nous connaissons, enfin, en cas de toute société, est très loin. Mais c'est vrai que c'est un peu inévitable, parce que dès qu'on commence à rentrer dans des choses plus concrètes, alors d'une part, la doctrine de l'Église dit que ça ne dépend, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément un sens de doctrinaliser ça, parce que, en fait, surtout que les décisions concrètes ou les réalisations de la doctrine sociale, c'est pas des textes, quoi. Ce sont des institutions, des projets, des mouvements, des sociétés, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a, ça servirait à pas grand chose, par exemple, de situer dans la doctrine sociale de l'Église ce qui ne relève pas forcément d'une doctrine, mais qui relève, encore une fois, de l'action, en fait. De l'action. Et puis, dès qu'on est dans les déclinaisons concrètes, l'Église est assez surprenante, parce qu'elle s'est déjà prise les pieds dans le tapis certaines fois, et donc c'est sûr que y aurait forcément une tendance à rester au niveau des principes. Voilà. Même si, sur certains sujets, d'où quand même, à la fin, l'intérêt de dire, dans le fait d'émettre ces principes, quels sont ceux vraiment qui... Et c'est vrai que, par exemple, la subsidiarité, là, on se dit, ça, quand même, c'est un principe sur lequel on ne va pas revenir. Parce qu'il est vraiment structurant. Maintenant, ce qui est bien avec la subsidiarité, c'est que personne ne peut arriver devant un dispositif politique en disant la doctrine sociale de l'Église me dit que c'est... Enfin, personne. En tout cas, c'est très compliqué de dire telle chose est directement contraire à... C'est toujours une interprétation, c'est toujours une décision, un choix. Et bon, cependant, l'Église avait quand même de bonnes raisons, par exemple, au moment de 1931, hein, parce que c'est surtout là, dans cette encyclique, 40 ans après Rerum Novarum, l'Église avait de bonnes raisons de dire, par exemple, que la conception fasciste de l'État est contraire au principe de subsidiarité. Alors ça, on peut dire, c'est une décision historique, contingente, mais... Et on aurait pu dire, quelqu'un aurait pu argumenter en disant, on ne peut pas à partir de ce principe, etc. Mais parfois, il y a quand même des cas qui sont un petit peu visibles. Et donc là, il y a une légitimité à intervenir. Mais je reconnais que ce n'est pas si simple, parce que dans d'autres cas, on se dit, l'Église a tranché à partir d'un principe sur tel point, mais en fait, on aurait pu aussi trancher autrement. Donc je reconnais que c'est un terrain de discernement qui est pour ça très propice, parce qu'il y a plein de questions de ce type qui se posent. Et d'où le travail à un moment de codification, mais de discernement de ce qui relève de l'immuable et de ce qui relève du contingent. Mais par exemple, un des derniers documents là, de 2000... j'ai plus la date... 2020, je pense... Dicaster pour la doctrine de la foi sur les questions économiques et financières, certains ont dit on s'engage sur des trucs, on se prononce sur des produits financiers, si ça se trouve, encore une fois, dans 15 ans, on dira que c'est... Enfin, donc je regarde, il y a quelque chose de risqué. Mais le problème, c'est toujours le problème, c'est que quand l'Église ne prend pas ce risque, on lui dit... vous n'êtes pas intervenu alors que là, vraiment, il fallait intervenir. Et quand on le prend, parfois... dans les applications concrètes, on peut ne pas tout à fait réussir, et d'où la nécessité, par après, de dire attention, on distingue ce qui est caduque et ce qui est contingent, et puis ce qui, en revanche, est éternel. Quoi. Mais c'est pas simple. Oui ?
J'avais une question, parce que je sais plus comment j'ai tombé sur un article de qui considérait que la doctrine sociale de l'Église était en bonne voie de mort, et que de toute manière, pour lui, c'était juste un ensemble de préceptes primordiaux et auxquels manquait une réflexion économique, tout court. Comment on prend ça et qu'est-ce qu'on veut ?
Alors, qu'elle soit morte, ça, je pense que c'est malheureusement une prophétie qui ne va pas vraiment se réaliser. En tout cas, c'est la vraie partie, parce que c'est vrai que là. Alors, on ne sait pas, je ne suis pas dans les. Peut-être que le père Maxime est dans les petits papiers de Jean XIV, mais. Moi, je ne suis pas dans ces petits papiers, mais il y a quand même de fortes chances pour que sa première encyclique soit quand même une encyclique de doctrine sociale. Enfin, on ne sait pas, mais il a quand même, dès le début, dès le premier jour, il s'est inscrit. Alors, sur l'IA ou pas, on va voir, on n'a peut-être pas fait une encyclique entièrement sur l'IA, mais en tous les cas, voilà. Et ensuite, non, je pense que là-dessus. Ce qu'on peut répondre, c'est que les encycliques de doctrine sociale de l'Église ne sont pas écrites par le pape tout seul. C'est-à-dire qu'en général, elles sont le fruit des travaux de laïcs, puisque c'est aussi un point important de la doctrine sociale de l'Église, c'est que c'est pas d'abord une histoire de clercs, parce que les acteurs de cette doctrine sont par définition d'abord des laïcs. Donc c'est vrai que beaucoup de laïcs contribuent, notamment ça a été le cas pour la première, pour Rerum Novarum, où plusieurs économistes avaient participé à la rédaction de l'encyclique. Et donc, je pense que le mieux, il faudrait dire à cette personne de rencontrer des acteurs qui se servent de la doctrine sociale de l'Église comme de quelque chose inspirant leur pratique. Vous voyez, par exemple, il y a trois jours de ça, j'ai rencontré une personne qui travaille depuis maintenant 25 ou 30 ans à la Société Générale, et qui vient de créer en septembre deux fonds, qui sont des fonds Laudato Si. Et alors c'est très intéressant parce qu'elle a fait tout un travail auprès de sa direction et puis auprès des équipes, parce qu'il faut expliquer, évidemment, la société générale, les gens, quand ils entendent la date aussi, ça ne leur parle pas, quoi. Donc il faut leur expliquer, etc. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne l'a fait aussi à partir d'un document qui a été publié il y a peu de temps, et qui est un document en fait qui cherche à fournir, en tout cas à concevoir des critères d'investissement financier à partir de la doctrine sociale de l'Église. Et donc ce qui est très beau, c'est de voir que en fait, il y a des personnes que ça inspire en fait. Ils se disent, ah mais moi, il y a un moment où c'est vrai que faire des fonds qui investissent, où la seule recherche, c'est une recherche de rendement, ça n'a pas grand intérêt, surtout quand soi-même on est catholique, ou qu'on essaie un petit peu d'aligner son métier avec sa foi. Et on se dit, ah tiens, est-ce que ça n'aurait pas un sens, d'autant que se développe un mouvement qui est le mouvement d'un investissement qui soit socialement responsable, est-ce qu'il n'y aurait pas un investissement qui serait plus en phase avec la doctrine sociale de l'Église? Et donc, comment on s'y prend? Ça donne lieu à des choses qui sont, encore une fois, constatables. Et donc, le fait que ça parle, et des exemples comme ça, il y en a plein, plein. Et donc, ça devrait tout dire que je dirais, ce fonds, d'une part, il est parfait, d'autre part, il est... je dirais, la meilleure réalisation, il est une pure déduction de ce qu'on vient de dire. C'est une tentative, mais comme tout acte moral, quoi. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que là, au moins une personne qui... Il y en a vraiment au moins une, parce qu'il y en a plein d'autres, qui agissent dans la société à partir, en s'inspirant de la doctrine sociale de l'Église. Et c'est ça qui est très beau, cette opération-là, comme ça, d'implémentation, est toujours très étonnante. Elle est toujours très étonnante. Oui. Parce qu'elle est personnelle, en fait. Là, on rejoint le principe de la personne, c'est-à-dire que, effectivement, la cohérence avec ça, c'est que ce sont des personnes qui agissent. Et donc, c'est toujours créatif, c'est toujours indéductible. Non déductible à partir de... Enfin, on peut pas... Moi, j'aurais pas vu... Si vous lisez l'encyclique de la DSI, vous pouvez pas vous dire « Ah bah oui, bien sûr, la société générale doit créer des fonds de la DSI. » C'est pas possible. Parce que c'est une personne qui le fait.
Moi, j'avais une question sur la situation très fin 20e siècle, 21e siècle, liée à l'excès de richesse, en général. Où la capacité d'une personne à s'approprier les biens issus de son travail devient de plus en plus flou à partir du moment où le travail lui-même ne semble pas produire grand-chose. Où on peut arriver à des travaux qui s'auto-alimentent ou des systèmes qui ont pour but de maintenir des gens actifs en réinjectant l'argent qu'ils produisent en eux-mêmes, enfin qui se met en plein queue. Et qu'est-ce qu'il y a comme regard peut-être donné par les luttes sociales ou les dérivés de celles-ci qui nous permettent de réfléchir dans un discernement personnel sur l'utilité de son travail?
Alors là-dessus, je précise, la doctrine sociale de l'Église, c'est une doctrine sociale de l'Église, c'est une doctrine sociale qui doit potentiellement valoir pour tous les points du globe. Donc effectivement, cette accumulation de richesses, en fait, elle est très partielle. À l'échelle de l'Église catholique, en fait, ça concerne pas tout le monde, parce que en fait il y a aussi non, parce que c'est vrai que nous on oublie assez souvent que du point de vue de ceux qui écrivent ces textes, et c'est jamais simple, c'est qu'ils écrivent potentiellement, il faut que toute personne sur le globe en ouvrant ça se dise ah ça me parle, ce qui est pas évident du tout, c'est pas du tout évident, parce que voilà. Mais après pour ceux qui sont concernés par ça, de reste c'est un pan qui n'est pas qui pour le coup n'a pas fait l'objet de beaucoup de... Alors si, il y a tous les principes. Le principe, c'est celui de la destination universelle des biens, c'est-à-dire que le sens de la propriété privée, c'est le qu'elle puisse bénéficier au plus grand nombre. Donc, par définition, une richesse en circuit fermé perd sa légitimité et son sens social. Vous voyez, il y a une expression qui est très forte du compendium à propos de la richesse. Voilà. Les biens, c'est numéro 328. Les biens, même légitimement possédés, conservent toujours une destination universelle. Toute forme d'accumulation indue est immorale, car en plein contraste avec la destination universelle assignée par le Dieu créateur à tous les biens. Voilà. Et le numéro 329, hein, les richesses remplissent leur fonction de service à l'homme quand elles sont destinées à produire des bénéfices pour les autres et pour la société. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a pas une mobilisation de la richesse, du capital au service du travail, parce que à la fin ça revient à ça, eh bien il y a un contresens du capital. Parce que le sens du capital, c'est de permettre le travail. Là-dessus, il y a une très belle définition de Jean-Paul II dans Centesimus de l'investissement. Il dit que l'investissement, c'est vraiment l'opportunité offerte à un peuple de pouvoir de pouvoir développer son travail. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de capital, il n'y a pas de travail non plus. C'est-à-dire que il faut, et donc l'investissement, c'est la mobilisation du capital au service du travail. Et ça, c'est un acte qui réalise complètement la destination de la richesse. Et donc, c'est sûr que c'est un énorme problème quand il y a une autonomisation ou un fonctionnement en vase clos des liquidités. Donc, c'est sûr que là, on est en plein contraste avec le message de la Trousselle. Mais cependant, ce volet-là n'a pas été très développé, d'où l'importance, effectivement, de développer, que c'est une doctrine en évolution. Et parce que derrière aussi, il y a un point qui n'a jamais été tranché par la doctrine de l'Église et qui nous est toujours renvoyé. Je pense que c'est bien d'avoir des exemples. C'est la question du prêt à intérêt.
Je vais vous poser la question.
Qui n'a...
C'est mon sujet de mémoire.
Ah, génial, génial.
Sur le Moyen-Âge, mais donc depuis le XIIIe siècle, c'est toujours...
Alors, ça fait partie des points, effectivement. Alors, je pense que c'est quand le magistère ne traite pas certaines choses, il y a toujours une raison. Et là, je pense que c'est un sujet qui est tellement sensible que pour l'instant, on se contente de quelque chose qui est l'usure, c'est mal. L'intérêt, il n'y a pas de problème, mais on l'a jamais tranché. Et donc, ça fait partie des développements qui sont vraiment attendus, et sans doute que ton travail contribuera. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses où, la trousselleriste n'est pas dans son état parfait, et elle a besoin, parce qu'elle est confrontée à des défis toujours nouveaux, quoi. Et c'est sûr que le défi de richesse accumulée fonctionnant en vase clos, comme c'est le cas aujourd'hui, de cette ampleur-là, on n'avait jamais connu, quoi. En sachant que c'est une équation assez complexe. C'est une équation qu'on essaie de tenir tous les facteurs de l'équation, parce que d'un côté, il y a la personne, la personne, liberté, capacité d'initiative, autonomie. D'un côté, il y a la solidarité, donc il y a l'interdépendance. Donc on n'est pas dans l'idée qu'une personne, c'est une monade, quoi, ou c'est un être qui se porte lui-même, la personne est créée. Ensuite, il y a les différents états de la personne aussi. De la personne, qui peut être dans un plus ou moins grand état de dépendance. Donc il y a plein d'éléments, alors il faudrait regarder dans le détail. L'espèce de combinaison entre autonomie et non-indépendance, quoi, ça... on formule comme on peut les choses, en sachant qu'il n'y aura jamais la formulation... l'idéal. Mais oui, il y a cette. C'est parce que d'un côté, effectivement, il appartient à l'être humain d'être un foyer d'action, quoi, au sens où il y a, voilà, il y a que l'homme qui agit au sens propre. Et puis d'un autre côté, clairement, étant donné que notre nature est intrinsèquement sociale, forcément, elle est relationnelle, quoi. Et donc là, derrière, on touche à des problèmes qui sont colossaux, qui n'ont jamais d'ailleurs été vraiment tranchés. Hein. Je ne pense pas d'ailleurs que le magistère va trancher un moment, parce que là-dessus, il faut laisser aussi les différentes écoles se développer. Mais cette question de la place de la relation dans la personnalité, là aussi, il y a plusieurs thèses à faire. Hein. Donc, je ne sais pas si ça répond. Oui, pardon, il y avait une question ici depuis.
Moi, c'était une question un peu historique, c'est-à-dire que on a maintenant une doctrine sociale de l'Église, mais est-ce que ça, elle implique aussi de porter un regard différent sur des positions qui n'étaient pas non plus des dogmes, mais par exemple, je pense aux positions aux lettres contre la République française au moment de la Révolution, ou certaines. Parti pris qui était religieux mais qui avait des conséquences politiques de la part de l'Église, comment est-ce qu'on concilie ces positions avec la doctrine sociale aujourd'hui?
Alors après, il faut voir, en général, sur ce sujet-là, à ma connaissance, il y a eu peu de textes, je dirais, d'autorité, quoi. Il y a eu de la part de l'enseignement de l'Église sur le sujet politique. En général, il y a quand même une grande abstention parce que ça n'est pas de son rôle. Donc par exemple, oui, il y a des catholiques, des personnes, des acteurs, parfois des clercs, des évêques, etc. Mais concernant en tout cas la parole pontificale ou la parole magistérielle, en général, il y a une grande réserve. Donc, ou alors après, ça peut être des décisions de circonstances. Par exemple, c'est sûr que Léon XIII, invitant les catholiques français au ralliement, ça n'a pas valeur dogmatique, c'est une décision. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne conçoit pas ça, c'est pas un texte, je dirais, dogmatique. Mais ça, c'est aussi le rôle de l'Église, mais dans ce cas-là, les choses sont bien identifiées. Mais ce qui est sûr, c'est que sur certains sujets, clairement, je pense que Charlemagne, s'il avait lu un certain nombre de choses là-dessus, et pourtant, bon, ce que je veux dire, c'est qu'en soi, on partageait la foi catholique. Bon. Donc c'est clair que là, il y a clairement une évolution, c'est le sujet. Et de savoir, s'il y a une évolution de ce type, qu'est-ce qui de cela, en fait, va évoluer vers... c'est jamais simple, en fait, à déterminer par avance. Par exemple, sur la démocratie, clairement, quand on lit les textes de l'Église, ce sont pas des textes qui sont... je dirais qu'ils sont descriptifs d'un système précis, etc., d'autant que autant de démocratie que le pays, quoi, dit démocratique. Et donc c'est vraiment plutôt une philosophie politique, c'est plutôt un certain nombre de considérations. Alors bien sûr, ça passe par... si c'est une démocratie, il y a quand même des questions de régime. Mais ce que je veux dire, c'est que le but, c'est quand même que ça puisse convenir à tout un tas de démocraties, quoi. Donc ça va être un discours qui va se situer, encore une fois, à un niveau de généralité, qui fait qu'il ne va pas être périmé en deux ans. Quoi. C'est ça le truc. Mais oui, clairement, hein, sur certains points, il y a une évolution, et toute la question est de savoir si cette évolution est homogène ou pas, si elle touche... Et là, c'est un travail de discernement permanent. Quoi. Permanent. Mais qui vaut du reste aussi pour le développement dogmatique. Hein, quand on voit... c'est ce qui s'est passé, hein, la déclaration... Dignitatis, c'est quoi pardon, oui, Dignitatis Humanae, là, du Concile Vatican II. Je télescope avec des textes de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, là. C'est sûr que c'était sur certains points clairement en contraste avec des enseignements de Pie IX, etc. Donc forcément, alors dans ce cas-là, alors ces enseignements de Pie IX, quelle valeur avaient-ils, etc. Et donc ça demande tout un travail de qualification, effectivement. Des niveaux d'enseignement. Et c'est sûr qu'un concile a plus d'autorité aussi qu'eux, donc il y a ça qui joue. Et donc clairement, hein, sur un... mais par exemple, sur le sujet de, mettons, la Révolution, à ma connaissance, les textes qui existent, c'est la condamnation de la concession civile du clergé, mais ça, je ne vois pas comment on pourrait faire différemment aujourd'hui, puisque c'est la situation chinoise. En gros, c'est un peu comparable, quoi. Dire, donc là, de ce point de vue-là, on ne peut pas... Là, il y a des principes, quoi. Et puis, et je force un peu le trait, hein, mais voilà. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la question des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, en fait, c'est une question aussi de savoir est-ce que ce qui est visé, c'est des droits en tant que tels ou la philosophie qui est sous-jacente. Donc clairement, là, entre... c'était qui? C'était Pie VII, je crois, le texte sur les droits de l'homme. Je ne sais plus qui c'est. Ça, c'est pas Pie VI, je crois que c'est Pie VII. Mais entre Pie VII et Jean-Paul II, c'est clair que de l'eau a coulé sous les ponts. Mais il faut dire aussi que ce que l'Église entend par droit de l'homme, c'est pas non plus... voilà, donc sur certains points, l'Église, en fait, a élaboré vraiment sa propre... Et c'est le moyen aussi de garantir le fait qu'on n'est pas tributaire comme ça de situations qui sont contingentes. Et donc là, vous allez poursuivre un cycle, en fait, sur la doctrine sociale. Ah bon ? Oh là là, mais j'achève la personne, quoi. En tout cas, mais vous devez être achevé, mais peu après les journées que vous avez. Donc c'est toi, Catherine, qui a fait toutes les conférences précédentes.